rencontre où on entendait parler de très belles choses sur des dispositifs compliqués, de financement européen, d'ingénierie, de trucs comme ça, de terminologie qui nous dépassait un petit peu. On s'est dit que ça serait important qu'en tant qu'artiste, aussi, on puisse apporter une parole, parce que c'était très peu finalement débattu dans ces premières rencontres, la création artistique en milieu rural, qu'est-ce que ça influence. Donc on a proposé à Théma de créer un groupe de travail sur la ruralité. Donc on est quand même s'il y a des structures, il y a quand même essentiellement des artistes, des gens qui créent, qui ont décidé de s'implanter en milieu rural. Et puis on a axé notre champ de réflexion, notre chantier sur trois angles. Et c'est un peu sur ce fil-là qu'on va essayer de... que j'ai demandé aux différents intervenants de présenter leur travail et que vous pourrez aussi intervenir après dans l'échange. C'est grosso modo sur cette question des territoires sur lesquels on est, on vit, on crée, donc le territoire de vie. Pourquoi on est là? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on est né là ou est-ce qu'on est venu là? Qu'est-ce que ça implique? Donc c'est vraiment le rapport à l'humain, le territoire de création en tant que créateur. Quand on est sur un territoire rural, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça, dans les deux sens, hein, de cette relation qu'on a avec les populations, territoire de jeu. Donc, moi j'appelle ça territoire de jeu, c'est pas que la diffusion, mais c'est aussi tout ce que les partenariats que l'on développe. Et puis, à un moment donné, dans l'évolution de notre groupe de travail, car ça fait 2 ans qu'on a commencé dessus, on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus dans le concret, parce que se rencontrer, discuter, un café, c'est une croissance, c'est très concret, ça c'est sûr. Mais il fallait qu'on aille un peu plus loin. Donc on s'est donné 3 axes. On s'est dit qu'il faudrait qu'on génère de l'action, parce qu'en tant qu'artiste, on est plutôt dans l'action. Donc on peut-être se doter d'un texte ou quelque chose, d'écrire quelque chose. Donc on est parti sur le projet à 2 ou 3 au départ avec Elena, Emmanuel, qui était l'ancienne secrétaire générale de Théma, et moi-même. Maintenant, il y en a d'autres qui sont rajoutés. L'écriture d'une charte ou d'un manifeste, on n'arrive pas encore à savoir, mais il y a un texte qui est là, Elena le présentera après moi. Voilà, ça c'est une première chose qui je dirais, ça serait assez concret, mettre des mots, les écrire, c'est concret. Et puis après, on en est à un point, il va falloir aussi trouver un moyen d'action et de dire, est-ce qu'on revendique cette marionnette rurale ou est-ce que c'est pas besoin? Voilà, mais... Et qu'est-ce que ça implique aussi? Voilà. Donc on croise des valeurs et on réfléchit sur des choses qui sont partagées avec d'autres champs disciplinaires, mais on voudrait aussi s'attacher à voir qu'est-ce que la marionnette peut avoir de spécifique. Puis on est à Charleville, on a voulu aussi voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça qu'on a invité, il y avait Dominga de Silencio qui n'est pas là, c'est pas. Mais on a aussi la compagnie Likutus qui vient de Rovaniemi en Laponie finlandaise, donc c'est très loin. Donc aussi, qu'est-ce que ça implique, cette question de la géographie et du territoire où on habite. Donc, Johanna Salo, qui est directrice de cette compagnie, nous présentera ça. Et puis, on a aussi demandé à Charles Lemoine de Vélo Théâtre, qui est dans un pays aussi éminemment rural, qui a aussi une longue expérience dans son territoire là-bas, et voilà, qui pourra aussi nous témoigner. Voilà, je pense que j'ai fait tout. Donc, on peut peut-être demander à Johanna de présenter. Donc, elle comprend le français, mais elle va s'exprimer et je vais essayer de traduire. Okay.
Good morning. I'm not sure if I understood everything what he said, but I try to answer some of the questions. So, I'm born in Lapland, Rovaniemi, which is a city of 60,000 people. And I moved away when I was 20. I went to school and I traveled a lot. And now I have gone back to work there as a marionette.
OK, donc Johanna est née à Rovaniemi, une ville de 60 000 habitants, donc une ville assez importante, très grande ville, en fait, pour la Finlande. À 20 ans, elle est partie, elle a quitté son pays pour aller à l'école, elle est descendue à la capitale. Faut dire les notions de distance, Rovaniemi-Helsinki, c'est 1000 km, quoi. Donc c'est quand même assez loin pour un petit pays de 5 millions d'habitants, c'est beaucoup. Et elle a décidé après ses études de revenir.
And Well, about Lapland, quickly, it's 1/3 of Finland, the area. It's a big area, but there's only 200,000 inhabitants in Lapland.
Okay, donc la Laponie en finlandais, c'est un tiers de la superficie du pays. Mais il y a tout 200 000 habitants seulement en Laponie. Mm. Donc il faut dire que le pays fait 360 000 km², donc grand ou deux tiers comme la France. Donc c'est un territoire énorme avec très peu d'habitants.
So what it means for my work is that we don't have many theater places, obviously. In Lapland, we have two main city theaters, and then, so what it means is that the places where I perform are many different kind of, like libraries, schools, shopping centers. We don't have a theater places.
Okay, donc il y a très peu de théâtre en Finlande, en Laponie ou à Rovaniemi, il y a un théâtre de la ville, et donc la plupart des lieux où elle peut jouer, finalement tourner, sont des lieux, des bibliothèques, et même des centres commerciaux, des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas de lieu dédié pour les spectacles.
I can tell you about my company, we are touring all the time. We don't have also we don't have our own theater place, and this autumn I made a tour of 2 weeks, and I made in total something like almost 3,000 kilometers touring around, because the distances between little villages are quite long.
Voilà, donc elle donne l'exemple que avec sa compagnie, ils tournent essentiellement, ils n'ont pas de lieu pour représenter. Et par exemple, ils ont tourné 2 semaines l'hiver dernier. Les distances entre les villages sont très grandes. Elle a fait plus de 3000 km en 2 semaines. Donc les distances sont énormes. Quand on va voir un voisin là-bas, on ne traverse pas la rue, on prend la voiture et on fait 50 km.
And well, these funny things, then with the Lapland, it's in the north, so we have 8 months of winter and two months of summer. And normally it would be nice to perform in the summer when it's sunny and warm, but the schools and everything is closed, so we work mostly in the winter. And what it means in a concrete way is that you can go on a tour when it's minus 25, and the first problem starts that you can't open the door of the car because it's frozen.
Donc voilà, c'est en Laponie, comme c'est très au nord, il y a 2 mois d'été. Et le reste, c'est l'hiver. Sauf que quand c'est l'été, il n'y a pas d'école, donc ils ne tournent pas vraiment, parce que la plupart doivent tourner. Et donc, Johanna explique le premier problème quand on tourne l'hiver qui fait moins 25 degrés, c'est pour essayer d'ouvrir la porte et de mettre la clé dans la voiture pour la faire démarrer.
And then it's the snow and the ice and the reindeers and all these things which are also obstacles on the way, but we do it anyway, and it's then when you finally arrive after all these problems to the school or the little village, the welcoming is really warm, because there is not much things happening in the north. So when the reason why I love the touring is to then meet the people, they are really taking you warmly.
Ouais, donc effectivement, l'accueil à chaque fois qu'ils arrivent après toutes ces embûches, en tout cas ces difficultés, à chaque fois il y a un accueil très chaleureux, parce que dans tous ces villages, il n'y a quasiment jamais d'offres, enfin il n'y a pas d'offres culturelles très, très faibles, donc il y a toujours un accueil extrêmement chaleureux.
And this is also a reason why when we make performances, we also attach a workshop in it, so that we can make like something with the children and teachers, and kind of give them something that they can continue with the kids there, because then we come one time a year maybe, so yeah.
Voilà. Donc en fait ils essaient, comme effectivement ils viennent pas souvent et que ces écoles qui les reçoivent n'ont pas beaucoup l'occasion de une fois par an de recevoir une compagnie de troupe de théâtre, même de marionnettes. Donc ils essaient toujours de jouer un spectacle, mais d'avoir aussi un atelier de construction ou quelque chose pour que, quand ils partent, les instituteurs peuvent continuer aussi à s'approprier un peu l'outil marionnette. Ça aille un peu plus loin que de faire simplement...
And then about the just a few things about the location of Lapland is that, yes, we have 1,000 kilometers to our capital town, Helsinki. But then what we now, the new thing what we are now starting is like collaborating with the Scandinavians, because the Swedish Lapland and Norwegian Lapland has the same problem. Stockholm is in the south and Oslo is in the south. So we now try to stop or not put too much effort on going to Helsinki, but actually work not to go to here, but to work this way. Because we have borders, we don't have to go over the sea. So we have Norway, Sweden, Finland, and also Russia, that we can travel this way, not this way.
Donc là, en fait, ce qu'ils essaient de commencer à construire en Laponie, c'est de créer un réseau avec d'autres artistes en Laponie, parce que la Laponie est un territoire qui s'étend sur la Suède et sur la Norvège, dans le nord de tous ces pays-là. Et ils se sont rendus compte que plutôt de faire des efforts d'aller vers la capitale, en Finlande, la capitale est au sud, Helsinki, mais en Suède, c'est pareil, c'est Stockholm, et en Norvège, c'est Oslo. Donc ils essaient de retrouver cette Laponie originelle, et puis que c'est plus facile de voyager transversalement, parce qu'il n'y a que il y a des frontières, il n'y a pas de mer à traverser non plus.
And also then we don't like to go in the marionette thing is we don't, there is not so many, there's actually maybe 3 professional groups in Lapland, and then this kind of, I don't know the English, semi-amateur, more or less doing really nice work but not professionally. And so we do a lot of this kind of cross art work, because it's boring to work alone, so I work a lot with the plastician, circus artist, and then the real theater people. But and this is something that makes the scene there alive, because we are mixing. But then sometimes the negative thing is that I miss the marionette way of looking. So this is why it's nice now to be in Sarleville and see a lot of things and take everything and then to put it in my bag and take it to Lapland.
Okay, la chose positive qu'exprime Urana de vivre dans le Nord, c'est qu'il y a, en fait, comme il n'y a pas beaucoup d'autres marionnettistes, elle est obligée de travailler avec des artistes, enfin ça l'a amené à travailler avec des artistes d'autres champs disciplinaires, donc du cirque, des plasticiens, des gens du théâtre. Ça crée aussi une dynamique artistique, créative et culturelle assez forte, des collaborations intéressantes. Mais d'un autre côté, ce qui lui manque aussi là-bas d'être isolé, c'est le regard d'autres artistes marionnettistes. C'est pour ça qu'elle est quand même super contente de venir ici à Charleville, faire le plein dans son sac à dos avant de repartir en Laponie.
Voilà. What else?
Le festival.
Yes, we have a Lapland Puppet Association, very small association with a really long name, and we are organizing a festival every second year. Next year, 2018 is the next one, and it's for solo performances, because I don't want to talk about money, but we don't have it a lot in Finland for the culture now. It's the same, I think, everywhere. But this is why we chose to make a solo puppet theater, because they are normally light, at least some of them, and then we have a venue for them. So this, we don't have any more even a web page, so you can find this association from the Facebook, and I will leave after this this kind of business card. So you can find us from the web if there's somebody who wants to apply to our festival. Welcome. We take 7 solos, and it is at this time of the year, almost the same time with Sarleville, so it's not too cold, but it's beautiful with the autumn colors. So welcome.
Donc Johanna, en fait, avec d'autres artistes, ont créé une association, l'association le Centre Lapon de la Marionnette. Donc avec un long à rallonge, mais ils n'ont pas d'argent, enfin voilà, parce que le gouvernement finlandais a retiré beaucoup d'argent pour la culture. Et je fais une petite parenthèse, Johanna est diplômée de l'Académie des Arts de Turku, où il y avait une section marionnette, où il y avait une forte, je dirais, ressemblance, on va dire, dans le cursus avec ce qui se passe à Charleville, à Esnam, et qui a été arrêtée, en fait. donc après 15 ans, alors que c'est... Donc, c'est, donc ça a généré une dynamique de la marionnette très forte, donc et pour ça, il y a beaucoup d'artistes marionnettistes finlandais, il y a le Focus Katsos, là où il y a beaucoup d'artistes qui sont diplômés de cette académie. Donc il y a une vraie dynamique de nouvelles générations de marionnettistes. Malheureusement, ça sera les derniers, enfin, entre guillemets, les derniers qui auront pu bénéficier de ce dispositif. Ouais. Et donc, pour revenir à Johanna, elle organise donc tous les deux ans un festival de toute petite forme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, du coup c'est plus facile de voyager aussi loin avec juste une valise. Elle laissera à la fin du petit déjeuner une carte. Vous pouvez appliquer, c'est en français, je ne sais plus, candidater, postuler, voilà, vous aurez toutes les informations. Donc ça se déroule au mois de septembre, à peu près la même période là, donc il ne fait pas trop froid à cette époque-là, en Laponie encore. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il faisait même plus chaud à un moment donné qu'en Finlande, à Charleville. Donc, ce qui est un peu... Voilà, et donc c'est un... Voilà, il y a aussi, Johanna était aussi très moteur par le fait, quand elle est revenue là-bas, pour essayer de redynamiser un peu, fédérer un peu les énergies autour de la marionnette. Et, voilà, mais ça reste avec cette distance géographique très longue et tout ça. Et puis, un des intérêts aussi, un des engagements très forts du gouvernement sur la culture aussi.
Why did you choose to come back?
I think in the end I wanted to, with my work, to bring it to Lapland, because I knew that when I went there, we had this grand old lady of marionette who retired, and she moved to Helsinki, and there was like, we say in Finland, a big boot, empty, so I climbed on those boots, and I'm trying to fill that hole, because it was, they got a little money to hire me like for a month, and then I decided like, okay, I try to survive here. Yeah. And yeah, it's also my whole family is in there, so I made my mother very happy also.
En fait, Johanna explique qu'elle est retournée à Rovaniemi parce que il y avait une... Où was that?
Leila Peltonen.
Yeah, Leila Peltonen, qui était une vieille dame qui avait un rôle assez important et un peu d'influence au niveau de la marionnette en Laponie. Et quand elle est partie, en fait, elle a été choisie pour prendre sa place aussi, comme elle était originaire de Rovaniemi. Donc c'était aussi la deuxième raison qui lui a fait revenir. Mais ça, donc au début, quand elle est arrivée, elle avait cette possibilité-là avec un petit peu d'argent, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Pour créer le centre Lapon de la marionnette aussi. Donc, comme elle disait, elle s'est retrouvée avec de grandes bottes vides à essayer de remplir, et c'est pas facile, vu qu'elle est de grande taille. Do you have something else to say about...
No, we can maybe discuss them.
Yeah, si vous avez des questions, on pourra discuter après. On va peut-être maintenant... on va revenir un peu en France, parce que là, on n'a pas le Chili. Oui, monsieur.
Par rapport à la Finlande, la France, on a toujours l'exemple du système éducatif finlandais. Alors, je fais le parallèle avec ce qui est arrivé au centre de la marionnette, qui a été éliminé par une directive gouvernementale, probablement. Est-ce que, à force de prendre l'exemple sur la Finlande, on ne ferait pas mieux de regarder aussi ce qui se passe à côté? Parce que l'exemple d'éducation finlandaise pour les Françaises, vraiment, on balance ça à chaque fois qu'il y a un débat sur l'enseignement, mais est-ce qu'il n'y a pas des passerelles à regarder, voir comment ça a mal évolué, puisque en matière de marionnettes, sa pérennité est disparue.
Oui, alors ça n'a pas périclité, ça a été coupé. C'est pas la même chose. Ouais. On en pourra en débattre après.
Ouais. Hein,
parce que comme voilà, mais oui, effectivement, c'est...
Est-ce qu'il n'y a pas un danger à écouter ce genre d'excuses et d'exemples qu'on nous donne, quoi?
Sûrement. C'est vrai que là, on va peut-être voir maintenant, on va revenir en France, et puis du coup voir un petit peu, on va comprendre aussi qu'il y a des choses parfois qui sont un peu similaires aussi, avec Charlot.
Donc Donc, je m'appelle Charlot Lemoine. J'ai créé la compagnie Vélo Théâtre avec Tania Castin il y a 35 quelques années. On a eu la chance assez rapidement de pouvoir vivre de notre métier et de pouvoir parcourir le monde. Et puis, à un moment donné de notre histoire, des circonstances nous ont amenés à changer de région et à s'implanter dans le Vaucluse, dans cette magnifique région qui s'appelle le Luberon. Et puis, on a continué notre travail de pèlerin à travers le monde et à travers la France. Et puis, à un moment donné, c'est vraiment la nécessité d'avoir un espace de travail un peu plus vaste que celui de notre garage, dont on disposait jusqu'alors, qui nous a fait chercher un lieu dans lequel on pouvait mener à bien un projet de création qui nécessitait plus d'espace. Et donc, pour situer le Luberon, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment... C'est le Vaucluse, c'est une vallée un peu close, comme le dit le nom, c'est un endroit où il y a une vraie qualité de vie, il y fait bon, il y fait beau, mais c'est un endroit qui est assez refermé finalement sur lui-même. Les villes proches sont Avignon, ville sacrée du théâtre, et puis Marseille, mais... il y a cette frontière géographique qui est cette petite montagne du Luberon qui est une vraie frontière. Et il est plus facile pour les Vauclusiens d'aller vers les points pour les Vauclusiens qui sont intéressés de se nourrir culturellement, d'aller vers plutôt que de faire en sorte que les choses viennent vers eux. Et lorsque nous nous sommes installés, évidemment, on ne connaissait pas la région. C'était complètement une proposition qu'on nous faisait d'une maison qui était disponible. Et puis, très vite, on a donc eu un besoin d'un espace un peu plus grand. Et on a découvert un lieu qui était un lieu qui avait été utilisé comme... c'est une usine de fruits confits et qui, comme... beaucoup d'industries alimentaires à périclité parce que il s'avère que nous achetons finalement, bien que la culture principale ce soit les cerises dans le Vaucluse, eh bien on va acheter des cerises en Pologne ou en Allemagne, et puis toutes ces petites usines et de transformation des fruits de fruits confits, puisque c'était la spécialité du d'Apt et des environs, et bien tout ça périclite, c'est une grosse usine qui rachète toutes les petites usines familiales, et qui ce sont des Irlandais qui viennent acheter, enfin bon, le truc classique quoi, ce qui fait que cette usine s'est retrouvée vide. Il y a eu une belle initiative qui a été une pépinière d'entreprise qui s'est installée dans ces locaux, et l'objectif de la pépinière d'entreprise c'était de faire en sorte d'être attentif à des projets venant de petits entrepreneurs sans moyens, mais qui pouvaient trouver refuge dans cette ancienne usine qui s'était donc transformée en pépinière avec toute une équipe qui accompagnait ces projets d'entreprise en devenir. Et l'objectif était qu'au terme de 3 ans, une fois qu'ils avaient commencé à formaliser leur projet, ils allaient, et après avoir été aidés, ils allaient s'implanter dans le bassin d'emploi autour d'Apt. Et puis ça créait un fourmillement qui était assez beau et dynamique. Mais très vite, ces entreprises, une fois implantées dans le bassin d'emploi, périclitaient également, puisque ils arrivaient à terme de leur, de, des aides dont ils pouvaient bénéficier pour monter leur entreprise. Donc il y avait quelque chose un peu mortifère, parce que en même temps il y avait une envie d'insuffler de nouveaux projets, et puis au moment où les projets commençaient à naître, on coupait les subventions et donc le projet avortait. Mais lorsque nous avons trouvé un espace dans cette ancienne usine qui n'était pas complètement occupée par ce projet de pépinière, la directrice à l'époque avait vu comme étant un atout de pouvoir accueillir, alors on avait du mal à endosser le mot d'entreprise, mais finalement on s'y est fait un petit peu, mais elle a vu un rapprochement qui était intéressant entre entreprise lambda et puis entreprise culturelle. Donc très vite, elle nous a ouvert ses portes en disant ben, « Oui, c'est parfaitement cohérent avec le projet que j'ai envie de développer. Venez vous installer dans cette pépinière. » Et pour nous, c'était pour les besoins d'une création. Donc on n'avait aucune idée de s'implanter en réalité. On voulait juste bénéficier d'un espace un peu vaste. Et puis... bon, comme à chaque fois, quand on développe un projet de création, on veut montrer ce qu'on a fait au terme de ce processus. Et comme nous sommes implantés dans une petite ville de 11 000 habitants, il est très facile de faire passer l'information. Donc, grâce à Massalia, qui était dirigée à l'époque par Philippe Foulquier, qui était coproducteur de ce projet que nous étions en train de créer, nous avons transformé pour l'occasion de quelques représentations l'espace de travail en un théâtre. Et par chance, le jour où nous présentions le travail abouti, il y avait une réunion dans la pépinière qui avait réuni tous les acteurs politiques de la région. Et donc, on a sollicité, on les a informés très rapidement, quoi, que juste à côté, dans le couloir, au fond du couloir, nous étions là et on allait montrer quelque chose. Et on a dû être force de persuasion. Ils sont venus, ce qui est assez rare. Et ils sont venus et ils ont découvert, dans un premier temps, ils ont dit « Oh, on a un théâtre !» Évidemment, c'était fait de briques et de broc, mais il y avait un gradinage, il y avait de la lumière, il y avait des rideaux, il y avait de là. Et puis il y avait du public, parce que finalement, on jouissait de la pénurie de propositions. Nous étions naïvement les premiers à faire une proposition de cet ordre qui pouvait rassembler du public autour d'une proposition artistique. Et d'un seul coup, ils ont vu un lieu, un public, et nous, c'était pour nous complètement inattendu aussi. Et les retours ont été très chaleureux, et du coup, ça nous a permis de pouvoir aller au contact. Et deux jours après que nous ayons abouti ces quelques représentations, on était dans le bureau de l'élu à la culture, et qui était aussi élu aux finances, ce qui est assez surprenant. Les temps ont bien changé. Et au bout d'une discussion d'une heure, il nous disait « Écoutez, ce que j'aimerais vous laisser une carte blanche. » Enfin, on ne comprenait même pas ce qui nous arrivait, d'ailleurs. Et vraiment, cet homme, et c'est vraiment un bête problème de personne, mais quand je dis ça, c'est le lot de notre métier. On est sans arrêt en connexion avec les gens, le public, nos collègues de travail. C'est vraiment quelque chose de l'humanité au sens le plus vrai du terme. Nous avons rencontré dans cette personne une ouverture, une disponibilité qui l'a fait croire au potentiel que nous représentions pour lui. Et très naïvement et très, très intuitivement, on a commencé à se dire, ben, oh, d'abord, on a un espace de travail, c'est assez confortable, même si c'était une usine désaffectée et que c'était pas aussi... On réalise maintenant, après avoir fait, l'avoir investi et avoir mis énormément d'énergie dedans, on s'est aperçu que c'était un sacré chantier. Mais ce qui était merveilleux, c'était que d'un seul coup, nous avions le potentiel de pouvoir ouvrir cet espace au public, évidemment, mais à d'autres collègues et amis. D'un seul coup, nous étions en capacité physique de pouvoir dire, bah, écoutez, il y a un public, potentiellement, il est là. On s'est aperçu qu'en mettant quelques banderoles sur les ponts qui traversent la rivière sans eau, là, qui passe dans Apt, on informait les gens très rapidement et les gens étaient en demande. Donc, sur cette dynamique-là, on a eu très vite, on a été force de proposition, grâce aussi à l'abnégation et au désir des gens qui ont répondu tout de suite à notre sollicitation, j'entends les artistes. Et petit à petit, nous tous, voilà, nous, Compagnie Vélo, mais aussi additionnés des gens que nous invitions, nous avons pu créer la cohérence d'un projet qui s'est très vite transformé en lieu d'accueil et de résidence, parce qu'il nous a semblé que la nécessité profonde, c'était de pouvoir répondre à ce manque d'espace de travail dont nous avons tous besoin. Et puis, évidemment, Tania et moi, ça nous a dépassés très vite et on s'est associés avec d'autres gens qui ont des compétences que nous n'avons pas et qui nous ont aidés administrativement, etc. Et petit à petit, les choses se sont construites autour de cet espace physique qui est cette ancienne usine. Et petit à petit, la chose s'est développée et a trouvé sa cohérence. Évidemment, à travers cette cohérence, les pouvoirs publics se sont intéressés à la pertinence du projet. Et puis, voilà, ça fait 25 ans maintenant que la chose est en mouvement, que la chose se construit, toujours en lien très étroit avec la compagnie qui tourne, qui a la chance de continuer à tourner un peu partout, en France et à l'étranger. Je dis ça parce que c'est pour moi fondamental, c'est-à-dire que toute l'énergie que nous sommes capables de pouvoir insuffler dans le lieu d'accueil n'a de sens que si nous sommes encore dans une dynamique de rencontre du public, bien sûr, à l'extérieur, mais aussi d'autres artistes. Et c'est vrai que maintenant, on peut dire que principalement, les projets d'accueil en résidence sont liés aux rencontres que nous faisons lorsque nous sommes en tournée. Donc, c'est vraiment une interaction entre la vie de la compagnie et la vie du lieu, quelque chose d'implanté, quelque chose de nomade, comme nos métiers, évidemment. Et alors, ça s'inscrit évidemment dans un champ artistique qui est le nôtre, plus immédiatement lié à notre tasse de thé, sans jeu de mots, qui est évidemment l'objet, les formes animées, tout ça, mais aussi à d'autres formes, d'autres champs d'expression artistique, parce qu'on s'est aperçu que, bien sûr, le lieu d'accueil en résidence est quelque chose d'important, mais en même temps, la réalité d'une petite ville de 11 000 habitants, c'est que si le lieu était fermé juste sur la pratique et la création, uniquement réservé aux formes animées, à la marionnette, faisons simple, ça aurait tendance à, plutôt que d'ouvrir le lieu, à le refermer sur une pratique un peu, un peu corporatiste, on va dire. Donc, on se doit, moi je me sens comme étant redevable de pouvoir offrir au public des propositions sur un champ artistique plus large. Et finalement, on s'aperçoit que la marionnette, évidemment, et l'objet est à la croisée de plein de champs artistiques, et donc c'est propice à l'ouverture à d'autres champs artistiques. Donc, il y a une espèce de cohérence qui n'est pas forcément réfléchie et maîtrisée, mais qui est d'évidence. Donc, nous donnons rendez-vous assez régulièrement au public, tous les mois, mais quelquefois deux ou trois fois par mois, il y a une proposition artistique qui n'émane pas directement, qui n'est pas directement liée aux accueils en résidence que nous faisons là, pour le coup, tous les mois, avec une ou deux compagnies. Mais enfin, voilà, c'est une proposition très, très ouverte. Au fur et à mesure du travail, il y a une confiance qui s'est établie avec l'ensemble de nos partenaires. Et récemment, nous avons donc été... on nous a proposé de devenir scène conventionnée. Donc... malheureusement, sur le plan pécunier, ça n'offre pas plus de moyens en réalité, mais ça assoit un peu plus le projet. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, très égoïstement, c'est que je pense à un moment donner la main à d'autres artistes, et ça a été important pour nous. Cette histoire de la scène conventionnée, parce que elle a été confiée à un artiste ou à un groupe d'artistes, à un artiste en l'occurrence. Je dis un artiste parce que Tania lâche prise de plus en plus liée à son âge. Tania a maintenant 81 ans, donc elle se dit qu'elle a peut-être d'autres choses à faire. Me voilà à bord de ce petit bateau avec tous mes collègues administratifs, mais aussi artistes qui m'accompagnent. Mais voilà, je suis en charge de porter artistiquement le projet. Et mon envie d'importance aujourd'hui, c'est comment je vais être en mesure de pouvoir transmettre cet objet qui est né avec, bon, donc comme je vous l'ai expliqué, mais qui est le fruit d'une initiative d'artiste dans un milieu rural. Et comment transmettre cette chose plutôt que de se dire « advienne que pourra, je me casse et puis on verra bien comment ça évolue ». Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'être dans un processus d'établir quelque chose de solide, relativement solide, même si on sait bien qu'on est toujours dans une fragilité et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on est force d'invention et tout ça. Mais d'asseoir un projet d'artiste pour pouvoir mieux le transmettre à des artistes et non plus le mettre dans le champ courant de la transmission d'un outil culturel comme on les fréquente quotidiennement. Bon, ça c'est la petite histoire, mais par rapport à notre implantation en milieu rural, elle est de fait. C'est finalement pas forcément un choix de notre part, mais c'est une constatation. Donc forcément, quand on travaille dans un endroit comme le nôtre, dans cette petite vallée du Vaucluse, là, forcément, pour aller toucher le public, alors donc la ville-centre, apte, évidemment, il y a tellement peu de propositions que les villages environnants viennent à apte pour faire les courses au quotidien et tout ça, et donc c'est pertinent d'avoir un lieu repère comme un lieu d'artiste dans Apt, mais c'est impérativement nécessaire que ce lieu aille aussi vers les petits villages. Donc on a mis en place entre autres un festival qui a lieu tous les deux ans, qui a pour vocation évidemment de nourrir les propositions artistiques dans Apt, aimé aussi dans les villages. Et avec avec encore une fois énormément d'implication et d'énergie. On essaye de nourrir avec des projets artistiques exigeants, de pouvoir transformer ces espaces qui sont toujours... On les connaît, ces espaces, vous les connaissez aussi bien que moi, qui ne sont pas toujours forcément bien adaptés à nos besoins artistiques. Mais on essaye, à la fois modestement, mais de façon très exigeante, de transformer ces espaces en véritable espace d'accueil du public et des artistes. Donc, à chaque fois, on a ce retour-là de la part des gens, des villageois, de se dire « Waouh, notre salle des fêtes est devenue un théâtre, quoi !» Alors bon, il faut tirer la mule, c'est lourd, mais en même temps, je pense que c'est un truc très important, quoi. Quand on fait le noir dans une salle, on voit bien la complexité ici, hein, d'investir des lieux qui ne sont pas des lieux de théâtre. Quand c'est bien fait, ça peut être très, très, très juste et très bénéfique pour la réception que fait le public de la proposition artistique et aussi pour l'accueil des artistes. Donc on essaye d'être très attentif à ça, penser à l'accueil du public et puis faire en sorte que les choses puissent circuler, même si c'est un peu complexe, pas se satisfaire. Je vois bien cette chose de se dire... On a peu de moyens, on invite des petites formes parce que ça coûte moins cher, des solos et tout ça. Et puis finalement, les besoins techniques sont moindres aussi, etc. Oui, c'est vrai, on est confronté à ça. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on alimente trop cette eau à ce moulin-là parce qu'on va, on tire les exigences un peu vers le bas. Et ce qu'on essaye de faire, on n'y arrive pas tout le temps, évidemment. Ce qu'on essaye de faire, c'est de tirer l'exigence vers le haut. Voilà. Donc, notre quotidien, et le quotidien de l'équipe de vélo, c'est d'être dans cette dynamique-là. Je suis très bavard, mais c'est une vie, alors. C'est compliqué de résumer. Mais j'oublie plein de choses, évidemment. Je ne sais plus, je me perds.
Je pense que ça sera aussi une occasion de venir te rencontrer après ou de venir te visiter chez toi, ceux qui souhaitent en savoir plus.
Alors, c'est pas chez moi.
Non,
c'est...
je dis chez toi, dans ton... chez toi,
oui, oui.
Dans ta famille, là-bas.
Oui, oui. Enfin, voilà, oui, c'est... Le vocable de maison est pour nous très important. C'est vrai, oui, c'est c'est un lieu de résidence, mais c'est une maison. C'est-à-dire que on essaye de faire en sorte que les gens qui viennent travailler et le public se sentent accueillis et se sentent chez eux. Et que, juste pour faire un petit truc, petite explication, c'est donc une ancienne usine. Donc c'était un espace très vaste que nous transformons en fonction des besoins artistiques. C'est-à-dire que, plutôt que de se dire, voilà, c'est comme ça que l'espace est le plus cohérent, avec des gradins, la scène, l'espace scénique, machin, y a ça, il y a cette possibilité-là, mais on se dit que l'outil, s'il doit être pertinent, c'est parce qu'il peut être réinterrogé en fonction des besoins artistiques. Donc, tout est amovible. Si on veut déshabiller le théâtre, on peut le déshabiller. Si on veut... enfin, voilà. On fait en sorte que ce soit l'objet, la maison, qui s'aménage en fonction du projet artistique que nous recevons et du public que nous recevons. Plutôt que l'inverse. Parce que souvent, on nous demande de rentrer au chausse-pied dans une boîte qui n'est pas forcément tout le temps adaptée à nos besoins. Évidemment, il y a les limites de l'espace, mais bon, voilà.
Merci Charlot. En fait, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit aussi une des raisons pour laquelle l'artiste a choisi de de sortir de là, il a choisi la ruralité, mais parce qu'il cherche un outil, enfin un espace pour travailler.
Oui.
Et en fait, effectivement, ça, la ruralité, le territoire rural très large, offre cette possibilité-là. Comme aussi, alors ça mélange plusieurs choses aussi, parce que c'est des anciennes usines, donc toutes ces friches industrielles, mais aussi en territoire rural, il y en a énormément, plus qu'on imagine.
Bien sûr.
Parce qu'il y a eu, dans les grands, effectivement, dans les grands centres urbains, il y avait des grandes entreprises, etc. Mais dans des territoires, ben, on connaît la vallée de la Meuse, avec toutes ces petites entreprises, tous ces milieux semi-industriels, avec les différentes crises qu'il y a eu, il y a des espaces à investir.
Oui.
Tu parlais, on parlait de l'Aponie, mais le Luberon aussi, c'est des espèces de déserts culturels, quelque part, où finalement les gens bougent très peu de chez eux.
Oui.
Il y a d'autres régions en France et en Europe et partout qui sont similaires. Et du coup, le fait de tomber à point nommé, de trouver là-dessus, ça je trouve que c'est un
super
témoignage d'avoir ce...
Non, mais c'est vrai, mais en même temps, on crée le lead de quelquefois. Quand tu dis ces espaces à investir qui sont d'anciennes usines, on a bien vu, on voit bien, il y a une multitude de propositions de cet ordre. C'est devenu un peu the place to be, quoi, d'investir des lieux qui ont été désaffectés, tout ça. C'est aussi, de la part des pouvoirs publics, une jolie façon de pas se sentir concerné par l'impérative nécessité de créer des lieux et de les penser comme étant des lieux d'expression artistique. C'est vrai que l'initiative des artistes contribue à ce manque d'espace, mais en même temps, attention de ne pas faire le job de ceux dont c'est la véritable fonction aussi.
Tout à fait, ça, on sait très bien que l'instrumentalisation, elle est très proche. De toute façon, il y a une tendance, bien sûr, hein, avec cette idée tu parlais des pépinières d'entreprise, le nombre de collectivités qui ont eu cette démarche inverse, qui ont construit, qui ont réhabilité des espaces comme ça pour créer ces boîtes dans lesquelles après on essaie de me refaire entrer n'importe qui. Mais je trouve ça très intéressant, c'est une force qu'on a.
Permettre à propos des friches industrielles, il y a aussi le danger quand on réinvestit des lieux comme ça, que les pouvoirs publics finalement décident de changer complètement d'avis. Et comme souvent, ça n'appartient pas aux artistes. Enfin,
tu as raison.
J'ai l'exemple du CNAC à New York qui a fermé récemment et qui a un endroit
qui
est complètement, enfin, le CNAC, le CNAR, pardon, les
arts
qui est complètement fermé.
Voilà, mais c'est vrai, c'est un danger. Oui, tout à fait. C'est pour ça si je faisais le lien par rapport à cette proposition qui nous a été faite de devenir scène conventionnée, c'est exactement dans cette optique. Alors, je sais bien que ce n'est pas un para-briefing, c'est une façon d'asseoir un peu la chose et de tenter d'éviter que le jour où la mode sera passée, qu'on nous foute dehors, quoi.
Après, il y avait une autre chose que tu as, enfin, un autre point que tu avais soulevé, qu'on retrouve, je trouve aussi intéressant, justement sur des projets qui ont une forte empreinte rurale où il y a peu d'offres culturelles, c'est cette nécessité de ne pas se cantonner à son propre champ d'expression artistique. Et d'être obligé, parce que tu disais aussi, j'étais resté sur l'objet, la marionnette, à un moment donné, mais de pouvoir offrir aussi à son public, parce qu'on peut dire son gros public, de la population dans laquelle on travaille, la possibilité d'avoir accès à d'autres champs disciplinaires et d'avoir une interaction, ce qu'a exprimé aussi Johanna en Laponie, avec le fait qu'il y ait peu d'artistes. Donc on crée des liens avec des gens de la musique, du cirque, des arts visuels, pour faire ces propositions. Et ça, je l'ai entendu aussi dans le groupe de travail avec les musiques actuelles, où des porteurs de projets qui sont des SMAC dans certains endroits, ils sont obligés parfois... Enfin, c'est pas au sujet, c'est qu'ils ont compris, c'était une évidence pour eux de ne pas proposer que des concerts de musique jazz, par exemple, dans leur territoire, dans la Drôme, là c'est une association, mais de proposer aussi des spectacles de cirque.
Mais tu fais bien de parler de ça parce que tu me rappelles un truc que j'ai pas exprimé tout de suite là. Depuis notre implantation dans cette ancienne usine, évidemment, on est force d'attraction. C'est-à-dire que depuis par le biais du compagnonnage, puisqu'on est aussi en charge de... on est aussi lieu compagnonnage. On a pu accueillir Élise Vigneron, qui voulait s'implanter dans la région, l'accompagner pendant 3 ans. Élise Vigneron a aussi... s'est installée dans la pépinière maintenant, puisqu'il y a des espaces qui se sont libérés. Et petit à petit, il y a aussi son compagnon qui est Jazzman, qui a investi un autre espace et qui est en train de développer un festival de jazz et un lieu de musique improvisée. Il y a une compagnie qui s'est installée aussi récemment. Voilà, il y a des choses qui se structurent et pas plus tard qu'avant de venir ici, on se disait, mais maintenant, donc il y a 3 initiatives nouvelles, il est impératif que nous soyons maintenant ensemble force d'une nouvelle proposition et qui va irradier le bassin autour d'Apt avec des propositions artistiques dans un champ tu vois, de plus en plus ouvert. Et ça c'est super gratifiant, quoi, de voir que cette petite chose intuitive génère d'autres envies de jeunes gens qui sont là, qui ont une force maintenant de réaction et d'implication plus grande que la mienne et celle de l'équipe du vélo. Donc ça, on est quoi qu'on veuille, on est force d'attraction. Il y a un moment donné où cette chose-là s'emballe. Et ça, c'est génial, parce que ça ne repose plus que sur une initiative, mais voilà, ça essaime, et ça, c'est fantastique.
Parce qu'effectivement, ça reprend, après, je vais la parole, mais ça reprend ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que tu as cherché très rapidement, tout de suite, une espèce de cohérence sur ton projet, sur ton envie de création artistique, le lieu où tu vas, la relation avec les habitants, cette espèce de contact très, très proche. Et du coup, cette cohérence, elle se développe.
Oui.
Il y a une dynamique, tu dis, ça pète dans tous les sens, mais elle reste toujours cohérente malgré tout, cette espèce de... Donc ça va, et ça permet aussi cette mixité avec d'autres champs disciplinaires, avec d'autres... Et finalement, on se rend compte que, en tant qu'artiste, ayant lancé cette machine, on a une responsabilité.
Énorme, ouais, ouais.
On devient le père de famille de toute la population au niveau... Et donc, du coup, ben... Comme ils sont prêts, les personnes qui viennent nous voir, ils se forment, ils deviennent très critiques, bah tiens, on peut leur proposer autre chose, de la musique concrète, tiens, une exposition d'art contemporain, du street art.
Oui, oui, oui.
Et effectivement, le fait qu'on soit, nous déjà, de par notre champ disciplinaire, on est capable d'aller voir partout, du coup, ça, on reste dans une cohérence par rapport à notre projet initial, même si ça commence à...
Oui. Oui, oui, et alors le danger du fourmillement, c'est de perdre un peu d'exigence dans la qualité du rapport, et à la fois dans la forme artistique, mais aussi dans la qualité du rapport au public. Donc ce qu'on essaye d'interroger maintenant avec Élise, avec Pascal, avec Sabrina, c'est de garder cette exigence de la qualité de la proposition, même si elle génère forcément et d'évidence une diversité et une multiplicité. Voilà. Mais si vous avez ce type d'envie, c'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est super gratifiant de voir comment ce que ça essaime et ce que ça ouvre comme potentiel créatif, vraiment.
Okay. Donc là, le temps passe vite.
James, je pense qu'il y a quand même un point essentiel pour sortir de ce que disait Charlot, c'est à un moment ou à un autre, il faut trouver l'élu qui soit ouvert aux propositions. Moi, je suis en Moselle-Sud, ce que j'appelle le Mesmerland, c'est-à-dire le Pierre Mesmer, ancien ministre des armées de Charles de Gaulle. C'est une contrée couverte de petites croix et de casernes. Vous imaginez déjà un petit peu l'état d'esprit des élus. Or, nous, en Moselle-Sud, on avait 2 festivals qui étaient organisés par le département, qui étaient la Sarre-Raconte et Montbouillon et Lyon. Et avec le nouveau conseil départemental, ça a totalement disparu. Et en plus, le président du conseil départemental nous a sorti une phrase qui a été dite par Robert Ranucci dans un écrit assez long, où il dit nous avons tous commencé par être amateurs. Ils ont sorti ça de leur contexte.
Ah oui, d'accord.
On ne s'occupe plus que des amateurs, et tout ce qui peut être plus ou moins professionnel, on l'oublie. Et moi, j'ai toujours eu en face de moi des élus qui sont des potiches, qui ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Récemment, le président de l'Office du tourisme de mon secteur m'a dit « Mais ce que tu me proposes, là, c'est pas trop culturel, au moins. » Voilà, et c'est juste une proposition sur deux auteurs locaux qui sont Herman Chatrian, tout le monde a oublié, mais qui sont considérables. Une réunion d'après, il me fait « On va rigoler, au moins. » Et son directeur de l'Office du tourisme nous a balancé Bonnième dans un festival. Donc ça situe un peu le niveau.
Oui.
Donc si on ne trouve pas en face de soi un élu qui est compréhensif, qui est passionné par ça, je pense que tout ce qu'on peut faire, ça tombe. C'est voué à la catastrophe. En plus, j'ai mon fils Antonin, deuxième, qui s'est présenté aux législatives sous la bannière de la France insoumise. Je vais vous dire que quand on le voit arriver maintenant, on regarde d'ailleurs. Alors, ça c'est important, c'est le côté politique des choses. Moi, je pense à quoi Marine Le Pen arrive à 46 à 50% dans un certain bled. Alors, leur parler de culture, alors que le seul mouvement culturel qu'ils aient eu, c'est le 8 mai, la bénédiction par le curé du drapeau des anciens combattants, ça signe un peu le genre d'ambiance qu'on peut trouver au fin fond de nos campagnes, quoi. Alors, quand j'entends Johanna parler de la Laponie, bon, ouais. On est isolé, mais finalement pas tant que ça. Mais moi, je suis quand même à 100 bornes de Metz, 100 bornes de Nancy, 100 bornes de Strasbourg. Et c'est vraiment au milieu de nulle part quand il neige. C'est aussi la Laponie. Voilà, donc c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Si on ne trouve pas en face de soi des interlocuteurs qui veulent bien faire le relais, tout seul, moi, de temps en temps, il y a des jeunes qui viennent parce qu'ils veulent faire du théâtre. Ou de la marionnette, on travaille un petit peu ensemble et très vite ils partent sur Paris, quoi.
Oui, non, mais je comprends ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire que ça a été la rencontre avec une personne qui était fondamentale. C'est vrai. Bon, c'est une chance. Quelquefois, oui, voilà, c'est ça, on le trouve pas.
Je crois qu'on a plein d'exemples. Soit on reste, effectivement, soit, par exemple, il y a un autre artiste qui était dans le groupe Ruralité qui nous avait donné son exemple. Il était sur Marseille, il a essayé de développer son travail, et puis il n'arrivait pas à avoir, au bout de quelques années, il a quitté Marseille, il est parti en Bretagne. Et là, il est tombé sur une personne qui l'a soutenu, et il a pu développer son travail. Soit on reste, soit on part.
Cela dit, c'est clair que, de façon très récurrente, on est obligé de faire de la pédagogie. Des fois, c'est gonflant. Parce que t'as l'impression de redémarrer au début, quoi. Pour expliquer le pourquoi du comment, peut-être que. Mais bon.
Juste une réflexion par rapport. Vous l'avez dit, il y a une personne, mais il y a surtout un projet. Et c'est toute la différence. Moi, je suis directeur en milieu rural d'un office d'animation entre Rotel et Charles Bouzé. 14 communes, Marine Le Pen passe en tête à chaque fois, pas de souci. Aujourd'hui, la seule dynamique qu'on a pu mettre en place, c'est quand il y a des projets d'action portés par des gens. Alors évidemment, c'est de l'humain. Dans votre projet, il y a énormément d'humains, hein, ça se ressent dans ce que vous dites et dans ce que vous êtes. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, notamment au milieu rural. Moi, je le dis clairement, on a assisté à plein d'opérations côté cours, programmation culturelle, où on essaye d'apprendre soi-disant de la culture et tout, c'est pas comme ça que ça peut se faire avec les gens minéraux, c'est impossible. On a en face de nous des agriculteurs qui bossent 12 heures par jour, on a des industrialisations, enfin, des gens qui vivent pas chez eux, qui partent travailler le matin, qui rentrent chez eux à 9h du soir. Donc si vous leur apportez la culture en disant il faut venir voir mon spectacle, ça ne marchera jamais, ça peut pas. Donc là il y a un projet d'identification avec une salle, nous on a des granges, on a des halles, on n'a pas de salle, on a que les salles communales. Donc du coup c'est compliqué. Donc il faut vraiment porter les choses avec le cœur, rencontrer les bonnes personnes, avoir des dynamiques de création, c'est ça aussi. Hein. Qu'est-ce que vous proposez? Vous l'avez dit, on a proposé un petit truc, on est parti, on s'est associé, on a eu le retour des élus, on dit bah ouais, qu'est-ce que c'est les élus, hein? Il faut que ça leur rapporte un peu en termes d'image. Donc du coup ils vont porter les choses avec vous parce qu'ils sentent qu'il y a du public, il y a de l'intérêt. Et après c'est parti, et après vous faites vivre votre truc, ça fait 25 ans. Et c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Et je pense que la dynamique de personne est importante, mais surtout le projet. Qu'est-ce que vous apportez quand vous venez faire du spectacle en milieu rural? qu'est-ce que vous créez et qu'est-ce que vous donnez aux gens, qu'est-ce que vous allez leur partager. C'est surtout ça. Et nous, enfin, ça fait 20 ans que je vis en milieu rural que je fais ce boulot-là. Et du coup, je peux vous dire qu'on a vu passer des dynamiques et des choses et des discussions avec des élus qui disent ouais, je l'entends bien, je comprends ce que vous vivez. On le vit aussi. On s'en fout de la culture, c'est pas notre truc. C'est pas du boulot, c'est pas un métier. Voilà, ça on l'entend en permanence. Et ça veut dire qu'est-ce que vous donnez, voilà. Qu'est-ce qu'on va partager avec les gens pour pouvoir réussir. Et je pense que dans la création et les champs disciplinaires différents, c'est essentiel pour nous. Et après, voilà, une bonne personne, on le sait. Hein.
Par exemple, ce que tu dis, avec Sébastien, on essaye de mettre en place on appelle ça le même processus d'accueil en résidence, mais non plus dans le vélo, le lieu centre, mais dans les salles des villages environnants. De façon à ce que les artistes puissent vraiment s'implanter dans le village, habiter dans le village. On attache beaucoup d'importance à ce que les artistes puissent se loger, non pas dans la ville-centre, mais à l'extérieur. Aussi pour eux-mêmes, c'est-à-dire que ça n'a plus de sens que d'aller bosser dans un lieu, de faire la bulle complète, de vivre dans le lieu où on travaille, sans prendre conscience de l'endroit où nous travaillons, quoi. Donc, on a tendance à presque l'imposer en disant vous allez habiter un peu à l'extérieur parce que ça donne du sens à l'action que nous menons, mais aussi que vous menez.
Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure tu dis il faut qu'on fasse de la pédagogie, on entend beaucoup ça auprès des élus. Mais en fait, cette pédagogie, on le fait aussi pour nous-mêmes, les artistes. C'est-à-dire que du coup, moi je trouve c'est intéressant, on commence à vouloir retourner paradigme de pédagogie, on peut le mettre de côté, mais plutôt on va essayer de trouver comment on peut s'apprivoiser.
Oui.
C'est plus, moi je préfère voir ce point de vue un peu de Saint-Exupéry, c'est s'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est comment on va s'apprivoiser, comment nous-mêmes on va être obligé de se sortir notre schéma d'artiste qui a besoin de son petit truc,
ça,
mais de s'implanter vraiment, d'être au contact des gens et de voir. C'est pas essayer de. Comme tu dis, il y a une exigence qu'il faut garder, mais. Du coup, tu parlais de transmission aussi, c'est important quand on a développé un outil, c'est super, je trouve que c'est vraiment. Je te remercie d'avoir accepté de venir témoigner de l'outil que vous mettez en place. Parce qu'il y a aussi un travail sur soi à faire pour pouvoir aller vraiment. Et la ruralité permet ça.
Oui, oui.
Permet ça parce que les gens, il y a une très grande demande, il y a une curiosité du public, des gens, des populations là-bas. Les gens sont incultes, non, ils sont pas incultes, ils sont curieux, mais sauf qu'il n'y a pas d'offre comme ça.
Oui, oui. Mais nous on revendique le terme d'élitisme, mais au sens vrai du terme, c'est-à-dire que parce qu'on a peur de ce mot, on a tendance à vouloir faire consensuel. Mais en effet, si nous sommes élitistes, c'est pour une aspiration vers le haut, c'est pas pour niveler la proposition et faire un truc consensuel, quoi. Il faut pas avoir peur de l'élitisme au sens.
Aussi pour monter sur l'élitisme, c'est aussi la question.
Oui, bien sûr.
25 ans, c'était sûrement la approche que vous aviez.
Non, oui, c'est vrai. Tu as raison. Oui.
I don't know. I try to follow the conversation with friends. And
sorry.
But if I understood something what you were saying, it came my mind is this kind of project that we have taken to Lapland. Like, I always consider myself not from Lapland because I'm from south of Lapland. But we have got in this kind of multi-artistic groups some money from EU or something to bring culture to the rural areas. And I have been part of two or three projects like this. And one was really successful, but I wanted to tell you about the first one because we got people from Lapland and then also artists from south of Finland, like I think Helsinki, and we went to the village and kind of came with our own ideas, like here. And it didn't work. They were not interested. They were fishing and it was wrong time and it was for adults. With children it's different, but with adults it's and after this we were thinking like, what was the problem? Because we had the venue, we had money for it, and nobody came. and it was the way we went there. We didn't find out who they were and what they were interested of. We wanted to bring our thing there, and it didn't work this way.
Okay. Ouais, donc Johanna donne l'exemple justement de ce que vous pointez, qui est Monsieur là, de l'animation, c'est que elle a travaillé donc sur des projets financés par l'Union européenne, sur des dispositifs d'aide au milieu rural. Parce que l'Europe, il y a des financements assez conséquents pour développer la culture en milieu rural. Et donc, elle mentionnait un des projets où elle a fait venir des artistes aussi du sud de la Finlande pour travailler sur ce projet-là et aller dans les villages avec un projet vraiment conçu pour les adultes. Ils sont arrivés dans les villages et en fait, personne n'est venu. Voilà, ça ne marchait pas, les gens préféraient aller à la pêche, etc. Ils ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils avaient l'argent, ils avaient les créations artistiques, leur gros travail, mais il n'y avait rien. Donc ça a amené à se poser des vraies questions et se confronter à ça, c'est important de en tirer des leçons et d'essayer de comprendre. Et ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas... Tu parlais de côté court, mais moi j'ai des souvenirs aussi à longtemps dans la CDN de Reims qui faisait des décentralisations. On voit monter un reste avec 6 comédiens, il ne sont plus sur le plateau dans la salle, à Mouzon, je ne sais pas où. Donc voilà, c'est des... Effectivement, mais même tu vois, donc cette responsabilité que tu proposes aux artistes, je trouve que c'est super important qu'eux, ils l'ont vécu, et donc ils ont fait un projet comme ça, donc les autres projets ont été, bien sûr, ils ont une volonté de travailler plus près des populations.
J'ai l'impression que, en tout cas, pour moi, là, ce qui est important de pointer, c'est que les questions de ruralité et de territoire, il y a le mot pédagogie qui a été... évoquée, mais de la pédagogie, à mon sens, elle est dans les deux côtés. Et que c'est ce que soulevait monsieur, c'est que c'est pas on parachute quelque chose et ça se fait. C'est effectivement un projet humain. Et humain aussi avec les habitants du territoire qui nous apprennent à nous aussi, artistes, comment fabriquer les choses. Et que ça m'a fait rebondir tout à l'heure parce que tu as employé le mot père. Et que du coup, moi, ça me rappelle le vocabulaire un peu colonialiste. Voilà. Pour moi, on est parents de personne. Mais en tout cas, on est tous parents. Enfin, tout le monde est parent. Et que dans cet endroit-là, de travail sur un territoire, c'est que je suis le parent de l'artistique, mais l'habitant est le parent de son territoire. Oui. Et que c'est dans ce mariage-là, et qu'en fait, il n'y a aucune posture de surplomb de personne. Et que je pense que les projets aussi qui frottent et qui, voilà, qui, hop, on arrive avec tout, bien, machin, paf, et puis paf, il n'y a pas les spectateurs. Mais ça, c'est des super leçons. Enfin, voilà, moi j'ai vécu ça pendant 12 ans avec Arinka dans l'art. Ben voilà, c'est un projet de territoire, c'est mettre les mains dans le cambouis, c'est aller se déplacer, changer de point de vue. Et au final, ça fait une véritable altération. Et que cette question-là aussi, qui est pour moi capitale, cet endroit-là de comment on transmet, enfin, voilà, ses savoir-faire et ses usages, c'est une véritable question. Parce qu'effectivement, c'est des histoires humaines et que je ne sais pas comment on peut transmettre ces outils-là. Enfin, voilà, c'est une vraie question que j'ai.
Oui, c'est source d'angoisse et de questionnement, c'est ouais. Sûr. Hein.
Donc, enfin, je vais effectivement l'histoire de père. Moi, je parlais plus de responsabilité.
Mais après,
donc,
je te connais, donc il n'y a pas de.
Voilà, voilà.
Mais c'est bien que tu n'es pas à cet endroit-là, mais quand même, le mot est arrivé.
Oui, c'est. Je pense que c'était pas le bon mot. C'était plutôt cette question de responsabilité partagée, parce qu'effectivement, juste pour avant de terminer, on n'a pas eu le temps de présenter. J'aimerais bien que très rapidement, Elena nous parle de la charte, parce qu'elle était vraiment la cheville ouvrière de cette charte. Avant que vous partiez, de décrire vos coordonnées.
Si vous en avez envie.
Si vous en avez envie. Qu'on puisse partager un peu plus, si vous voulez faire partie de ce groupe de travail. Donc, elle fait tourner. Et puis, on va demander à Elena... Donc, très rapidement, je me suis... En fait, c'est ma faute, j'ai cru qu'on avait juste 11 heures, mais
J'ai bien vu que la parole féminine est un peu bâillonnée quand même. Hein, ce sera peut-être parce qu'on est étrangère aussi, mais... Voilà, vous êtes d'accord. Hein, bon. Donc, en très peu de temps... Non, alors, c'est un document de travail sous lequel on a travaillé à trois, donc Jean-Christophe et Emmanuel. Et moi, je tiens à la lire parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des retours, en fait. Voilà, travailler à trois, c'est très frustrant. Après, on est parti de témoignages que différentes compagnies nous ont donnés, des témoignages comme celle-là et d'autres. Et bah, parfois, on se regardait en souriant parce qu'il y avait des choses, on se disait « Ah oui, ça, tout le monde l'a dit de différentes façons et à différents territoires, mais c'est un point commun. » Après, là, quand je vous écoutais, je me disais « Ouf, comment mettre toute cette richesse, cette humanité qu'en tant qu'artiste, on a quand on raconte notre vie et notre combat quotidien dans une charte ?» Donc, je vais vous la lire. J'ai l'impression que c'est très, très froid, du coup, mais... Hein? On est là justement pour ça, pour qu'à un moment donné, vous me disiez « Mais non, moi, en tant qu'artiste, je n'ai pas envie de signer ça, par exemple. Je ne parle pas comme ça. » Voilà. Donc, charte ou manifeste, parce qu'on ne sait pas encore si c'est une charte ou un manifeste. De la création marionnettique en milieu rural. Nous sommes des artistes et des acteurs culturels qui pratiquent les arts de la marionnette dans toute leur richesse et leur diversité en milieu rural. Conscients du fait que le terme « ruralité » réunit des réalités très variées du point de vue démographique, social et économique, nous employons tout de même cette définition avec la conviction que nous agissons sur des territoires qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Une densité de population réduite, des distances importantes à parcourir, peu d'infrastructures et peu de moyens de transport public, une méconnaissance des politiques culturelles de la part de nos élus locaux, une méconnaissance des populations sur le travail des artistes professionnels, créateurs, formateurs, médiateurs, et une méconnaissance de la diversité des esthétiques existantes aujourd'hui dans la marionnette, un manque de lieux de travail et de répétition, une offre culturelle rare et saisonnière, allant souvent de pair avec des lieux de programmation de spectacles vivants clairsemés sur le territoire et rarement actifs à la diversité des esthétiques existantes, notamment à la marionnette contemporaine. Une faible écoute de nos partenaires institutionnels sur le territoire, tant politique, département, région, DRAC, que culturel, scène conventionnée, scène nationale. Artistes marionnettistes, nous développons sur nos territoires des territoires... Non. Artistes marionnettistes, nous développons sur nos territoires de vie, des territoires de création et des territoires de jeu. Le milieu rural ancre notre démarche artistique qui s'enrichit également de nos voyages, résidences et tournées dans d'autres campagnes, en milieu urbain, à niveau local, régional, national et international. Pour cela, nous sommes partie intégrante et force de proposition pour le milieu rural du point de vue culturel, social, économique et politique. Notre action en faveur de la création en milieu rural s'inscrit dans celle commune avec l'UFISC et la Fédélima, tout en revendiquant notre spécificité d'artiste marionnettiste. La marionnette, tout en se développant sous de multiples formes contemporaines et novatrices, est intrinsèquement un art du lien. Ancestral et contemporaine, elle est accessible à tous. Elle participe à la démocratisation du spectacle vivant. Là, les guillemets, c'est, vous reconnaissez peut-être la citation du manifeste 2013 pour les arts de la marionnette. Nous contribuons à maintenir un tissu social dans des territoires où les habitants sont de moins en moins nombreux et où les services et les lieux de rencontre ferment. Nous contribuons à la sauvegarde de campagnes habitées, vivantes et capables de se renouveler en satisfaisant à ses besoins à tout point de vue, notamment culturels. Manifeste toujours. Ludique et polymorphe, la marionnette, dans toutes les disciplines qu'elle rassemble, est un instrument pédagogique idéal pour développer des actions de médiation originales vers tous les publics, favorisant la créativité, l'imaginaire, le langage et l'échange. Notre présence sur le territoire s'accompagne avec la possibilité de promouvoir des projets de médiation, de formation et de thérapie, ainsi que la possibilité d'être gardien et de transmettre une mémoire et un imaginaire vivant du territoire. Nous apportons aussi de la richesse et des emplois au terrain où nous sommes implantés, tout en créant des circuits économiques courts qui favorisent l'intersection entre acteurs culturels et non, le travail en collaboration équitable avec les acteurs locaux et en proximité avec les populations, et la recherche de modèles culturels, sociaux et solidaires. Nous souhaitons revendiquer une diversité des esthétiques, des récits et des paroles pour endiguer le formatage artistique comme intellectuel, refuser toute verticalité et affirmer l'existence d'une multiplicité de centres de création sur le territoire national. Mettre en synergie au niveau régional, national et international les différents territoires ruraux, les artistes et les acteurs culturels qui y travaillent, et ce, en lien avec la volonté européenne de soutenir les territoires ruraux. Infuser les villes et les périphéries urbaines de notre imaginaire, de nos modes de relation avec les publics et de nos modèles économiques. Dialoguer avec les élus et les interlocuteurs locaux sur la richesse et les potentialités des arts de la marionnette et favoriser ainsi une compréhension réciproque. Faire entendre nos voix et la pertinence de nos actions auprès de tous les échelons des pouvoirs publics, conseils régionaux, régions, ministères. Pour cela, nous nous donnons ce manifeste commun, qui a aussi vocation à être diffusé auprès des élus locaux et des institutions nationales. Nous travaillons à une cartographie des compagnies marionnettes et des lieux sensibles aux arts de la marionnette actifs en milieu rural. Nous visons à organiser un parcours de la marionnette en milieu rural, sorte de festival itinérant ou journée nationale qui soit fêtée en spectacle, exposition et conférences dans les différents territoires, avec l'implication des structures qui y agissent au quotidien. Nous demandons une prise de conscience nationale au sein de la profession des arts de la marionnette et au sein du monde du spectacle vivant en France, de notre existence, de notre travail et de la richesse culturelle, sociale et économique que nous développons. Des financements et des équipements favorisant la consolidation des projets que nous menons et le développement de la création en milieu rural, en tenant compte de critères d'évaluation qualitatifs et non uniquement quantitatifs. La culture constitue un bien commun de l'humanité et est fondatrice de sociétés et du vivre ensemble. Au nom de la démocratie, de l'égalité des chances et de la défense des droits culturels, il est fondamental que les territoires ruraux puissent accueillir et favoriser l'installation d'artistes marionnettistes et de compagnies. Hein, ça vous embouche un coin, hein? Non, mais voilà, disons que je pense que le questionnement profond qu'on se pose sur tout ça, c'est est-ce que ça a du sens de continuer à affirmer une spécificité rurale et de prendre en route. Mais de fait, on a déjà la réponse, mais ma question est complètement rhétorique. On en est arrivé à se dire que cette question de la ruralité, de la création, qui est différente de la programmation, comme on se disait, est pertinente, mais si elle est insérée dans la profession globale des arts de la marionnette et de la culture. Donc toute la question, c'est de trouver l'équilibre entre notre spécificité et on appartient à un monde culturel commun. Juste, on a l'impression d'être parfois peu ou moins visible, mais on ne veut pas non plus être mis à part.
Si je peux rebondir, c'est du coup, effectivement, cette spécificité de la ruralité me fait penser aussi à une autre spécificité qui est liée aux actions culturelles. Et que les actions culturelles, ce n'est pas un technicien ou un artiste qui fait une action culturelle. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est médiateur dans un théâtre. Ça soulève aussi cette même...
Je pense que c'est par ailleurs une problématique commune... Parce que de plus en plus, on nous demande de faire des actions artistiques.
C'est un débat qui ne... Et les usages, j'ai l'impression qu'en milieu rural, on est plus préparé à... plus développer des outils de dialogue, justement, pour pouvoir négocier.
En fait, pour terminer, notre question, là, aujourd'hui, c'est là, qu'on pose à tous, c'est effectivement ces valeurs qui sont traversées par l'artiste qui travaille, qui œuvre, qui vit et qui... en milieu rural, tout champ disciplinaire confondu, elle est commune à tous ceux qui soient musiciens, plasticiens, qui font ce travail. Donc du coup, notre question, c'est est-ce qu'on continue d'affirmer, nous, marionnettistes, qu'on amène quelque chose aussi, une spécificité, est-ce qu'on a envie de s'en emparer? Voilà, et de le revendiquer, de signer, de décrire quelque chose. Est-ce qu'on s'est dit, on continue? En fait, on s'est mis à écrire quelque chose parce que se motiver, on n'était plus tous les trois avec la même lettre. Voilà. Bon, après, on a eu la chance que Sébastien et puis Charlot ils ont pu continuer. Et puis il y a Émilie maintenant qui est Lucas qui est venue aussi. Donc, voilà, donc c'est un peu un appel. Parce que quand on a lancé un appel il y a 2 ans à ce groupe de travail spécifique, on a eu quand même pas mal de réponses, 20. On a fait une première réunion à Paris. Et c'est la campagne qui est venue à Paris. Chacun a son truc. On a eu du piment pâté au piment d'Espelette, on a eu du cidre, enfin, on a eu de Bretagne, on a eu plein de trucs. Voilà. C'était très sympa. Et on a commencé. Et en fait, on a passé une journée à se rencontrer, se raconter. En fait, c'est l'histoire du récit. C'était déjà bien après, oui.
Pour moi, la question de la ruralité n'est pas une question de dimension artistique, mais une question d'implantation. Et si on pense implantation, et si on pense que ni dans les territoires ruraux, ni dans les grandes villes, on n'a pas encore fait le lien de la transmission entre une tradition et une future, de relier le ancré l'art de la marionnette dans quelque chose qui est passé, peut-être un passé récent, peut-être un passé encore plus ancien, mais une connaissance, une culture qui n'est pas encore révélée au grand public. Et je pense que c'est ce travail-là qu'il faut entreprendre en même temps que l'implantation quelque part. Dans la ruralité ou ailleurs, quand les gens ne comprennent pas d'où ça sort, pourquoi, quels sont les liens affectifs, culturels et possibilités d'identification avec un territoire, ben, il n'y aura rien. La reconnaissance de l'art de la marionnette, ce n'est pas la grandeur d'âme de l'artiste qui va définir, mais c'est l'esprit, c'est l'intelligence de ses propos et une possibilité de créer un sens dans l'histoire, en nous.
En tout cas, voilà, on voit que ce chantier sur la ruralité, il ne veut pas se contenter ce que disait au début aussi Elena, ce qui a été écrit. Effectivement, quand on parle ruralité, ça sonne comme un gros mot et très cloisonné. Parce qu'on l'oppose toujours à l'urbanité, ruralité. C'est des termes qui sont toujours mis en opposition. Ils amènent tout de suite une opposition. Or, justement, c'est ce qu'on voudrait. Et c'est ce qui est débattu, non, qui est travaillé, réfléchi, non pas uniquement dans notre groupe, mais dans le groupe qui regroupe les lieux musiques actuels, etc. C'est montrer comment on peut créer des ponts par la transmission. Voilà, et on a l'exemple aussi de très vite, on se rend compte qu'il y a des traditions, on est sur un territoire, il y a une histoire, il y a des gens qui vivent, etc. Et on n'est pas que dans la ruralité non plus, on essaie de développer des outils, donc tu disais, en tant qu'artiste, on a cette capacité à être inventif, comme Charlot le disait aussi. Comment on arrive à travailler des outils, et peut-être que la ruralité, c'est une chance pour nous, c'est un terrain d'exploration, où il y a encore des champs non explorés, des choses à construire plus facilement, parce qu'on a peut-être un rapport plus rapide, plus proche avec les gens, mais c'est pas sûr, non, parce qu'il y a des quartiers, je sais pas, dans le 20e, là où tout ça, des fois, il y a des...
Complètement, parce qu'en fait, la ruralité, voilà. On emploie ce terme-là, alors oui. Qu'à Paris, il y a plein de coins.
C'est ça.
À Paris, c'est l'endroit où l'art n'existe
voilà.
pas.
Enfin, c'est ça.
N'est pas visible, ne fait pas de frottement entre les individus, et c'est ça. Et que du coup, peut-être, c'est aussi de se dire, ce terme-là, il a été super pour commencer à bâtir quelque chose, mais peut-être faut trouver un autre mot, parce que ça restera vachement. Moi, la ruralité, je venais de l'Ain, je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré la même chose, enfin, je veux dire, à Paris.
Et en même temps, il y a des choses... et en même temps, non. Je pense qu'il y a un rapport avec la nature qui est présente, des saisons qu'on voit, des étoiles qu'on voit, des paysans qu'on voit. Et avec, enfin, tu vois, c'est pas la même population, mine de rien.
À Barbès, dans le 18e, je peux dire le rapport avec le bitume, les collègues.
Oui. Je veux dire, l'espace n'est pas le même, du coup.
Mais c'est un rapport à l'environnement.
Ah, bien sûr.
Voilà. Ouais. Après, c'est naturel, c'est pas naturel. Mais en tout cas, c'est un rapport à l'environnement, c'est un rapport au territoire.
Mais c'est pour ça qu'on élargit aussi. En fait, il va falloir qu'on arrête ou alors on commence tous à consommer parce que le bar va... C'est vrai que ça aussi, ça, c'est une des autres valeurs de la ruralité, la temporalité. On a du mal à rester dans... Ça prend du temps et on pourrait être fait longtemps. Juste avant qu'on arrête le débat, je voulais donc signaler que je vous ai parlé de ce groupe de travail avec plusieurs fédérations élargies qui organise des rencontres deux fois par an, nationales. Les prochaines auront lieu le 14-15 novembre à Tulle, donc dans le lendemain qui chante. Donc Tulle, c'est encore une petite ville de Corrèze, que tout le monde a connue grâce à notre ancien... Moi, je connais bien parce que j'habite pas loin. Et c'est une petite ville qui a une empreinte rurale très forte. Ancien Limousin. Donc les 14 et 15 novembre, donc voilà, si ça vous intéresse, vous contactez.
La charte manifeste sera imprimée.
Alors,
la charte,
pour l'instant, ce qui est important, c'est que si vous voulez travailler dessus, on va rediffuser, vous avez laissé vos coordonnées. Il y avait déjà un certain nombre de personnes qui vous avaient. Adhérents TEMA qui étaient intéressés. Et on se donnera, je pense qu'il faut qu'on décide après ensemble, un temps où on va la finaliser. Voilà. Et donc avant la diffusion dans les mairies, il faut déjà qu'il y ait l'aval de l'ensemble des adhérents. On est quand même une association démocratique.
Oui, je pense qu'il y a des choses à modifier. Quand même.
Voilà, il y a du travail encore à faire, je pense aussi, parce que là, on a travaillé à deux ou trois, mais on n'est pas représentatif de. Déjà les 20 ou 30 qui étaient intéressés pour vraiment se mettre les mains dans la terre, comme on dit. Et puis voilà. Et après, on peut donner un temps, un événement, à un moment donné, chez l'un, chez l'autre, pour dire ben voilà, ça y est, on affirme ce truc-là. On dit à tout le monde on a l'outil, c'est bon, vous pouvez vous en emparer et je dis l'imprimer chez moi. Et, parce que le manifeste qui a été fait en 2013, c'était un bel outil aussi. C'est aussi ça qui nous. C'est pour ça qu'Elena a repris des choses. Voilà, tout simplement. Quand moi j'allais voir mon élu dans mon petit Limousin avec cette belle plaquette, et regardez Limousin, un festival de partenaire.
Toi. Voilà. Jean-Christophe, très très fort que ça circule.
Merci.